Bouygues Télécom.
Noël approche et Rachel de La Rochelle ne sait qu'offrir à son frère Raphaël un super smartphone ou une enceinte Bluetooth. Eh bien Rachel, vous allez être ravie de ce qui suit.
C'est enfin Noël chez Bouygues Télécom et le smartphone Oppo Reno 4 Pro 5G est à seulement 1€ plus 8€ par mois pendant 24 mois grâce au forfait Sensation 90Go avec avantage smartphone. Et en plus, repartez avec une enceinte Bluetooth 100% remboursée. Rendez-vous vite en boutique. Offre soumise à condition, smartphone à 193€ après remboursement compatible dès ouverture du réseau 5G, engagement 24 mois.
À voix nue. Cette semaine, en hommage à Anne Sylvestre récemment disparue, France Culture diffuse en nouvelle écoute les entretiens d'Hélène Azéra avec la chanteuse en 2002. Ce soir, les débuts dans la chanson.
La chanson.
Bien, bizarrement, je n'ai écouté que du jazz pendant toute mon adolescence. Il n'y en a pas trace dans ce que j'ai écrit, parce que bon, c'était pas, sans doute pas ma façon de faire. Sinon, la chanson, ça a commencé, alors avec la radio, quand même, là. Parce que j'ai écouté un petit peu ce qui se passait. J'ai écouté Gréco, Les Enfants qui s'aiment, tout ça. Brassens, c'était Le Gorille, tout ça.
Vous avez le souvenir de la première fois que vous avez écouté une chanson de Brassens?
C'était à la radio, puis ça a été mon premier disque. Le premier disque que m'a offert mon frère, c'était Brassens, Le Gorille. C'était pour Noël, bien sûr, parce qu'on n'offrait pas des disques n'importe quand. Hein.
Drôle de cadeau à faire à une jeune fille.
Hein. Oh ben, on n'allait pas se gêner, là. Hein. Bon, ça c'était, j'écoutais, puis je m'asseyais quelquefois... devant le piano, mais j'avais arrêté d'apprendre le piano à 15 ans avec la grosse fatigue, la grosse paresse de l'adolescence. Tout d'un coup, je dis non, je veux plus. Bon, ce qui est dommage, je le regrette maintenant, mais tant pis. Mais simplement, je cherchais des accords comme ça sur le piano. Et puis un jour, on m'a prêté une guitare. Et j'ai commencé à gratter. Mais gratter trois accords, quoi, parce que évidemment j'ai pas pris de cours, parce que à Suresnes il y avait pas de prof de guitare, et puis que j'avais pas de quoi me payer des cours de guitare. Donc bon, j'étais étudiante à l'époque, et c'était à Suresnes. Ouais, mais je me souviens que j'ai entendu à la radio Nicole Louvier, et vraiment ça a été quelque chose d'important pour moi, pas du tout comme inspiration, ni comme quelqu'un à suivre ou quoi, mais c'était simplement qu'elle existe, que ce soit une fille d'à peu près mon âge, qui écrivait des chansons, qui les chantait en s'accompagnant à la guitare, et qui chantait à la radio, et puis qui avait l'air d'en faire enfin, son métier, je ne sais pas, mais en tout cas de commencer à faire ça.
Vous êtes allé la voir sur scène?
Non, je ne l'ai pas vue sur
vous
scène.
Vous avez acheté des disques?
Oui, des petits 45 tours.
Mon petit copain perdu.
Oui, bien sûr, et Toile d'araignée, non. Alors, c'était vraiment superbe. Et puis, j'ai vu que c'était possible, mais comme ça. Et puis, j'avais cette guitare et je grattais quelques accords et j'ai écrit quelques petites choses comme ça, mais
quand est-ce que vous avez commencé à chanter ces chansons, même devant des amis, votre frère?
Oh ben, devant ma petite sœur dans la salle de bain, c'est une fois qu'on était à Paris, ça. Et ma famille, enfin mon père disait va chercher ta guitare et chante-nous quelque chose. Oh mon Dieu, ça c'était affreux, mais bon. Ensuite, non, mon premier semblant de public, ça a été l'école de voile des Glénans, où je suis allée faire des stages en Bretagne, et où j'avais emporté ma guitare, la première guitare que je me suis achetée, qui était une casserole effrayante, et sur l'île de Drennec, dans l'archipel des Glénans, le soir à la veillée. Je chantais des petites chansons que je n'ai d'ailleurs pas chantées par la suite. Mais de temps en temps, je rencontre...
Vous chantiez les chansons des autres aussi?
Pas du tout. Non.
Vous avez toujours chanté vos chansons?
Ah oui, je ne chantais pas les chansons des autres, non. Je rencontre de temps en temps un Glénanais, un ancien Glénanais ou une Glénanaise qui me chante un truc que j'ai absolument oublié ou jamais, jamais chanté ensuite. Mais bon, ça a été une sorte d'encouragement.
Vous vous souvenez de ces chansons-là, jamais enregistrées ?
Oui, enfin, vaguement.
Par exemple ?
Oh non, 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 non. Non, non, non. Je ne vais pas... Non, parce que, bon, si je ne les ai pas données par la suite, c'est sans doute qu'elles n'en valaient pas la peine. Mais bon, les copains, c'est toujours très indulgent. Ouais, super, tu devrais... Bon. Et puis, dans tous ces copains, là, il y en avait un qui m'a donné l'adresse de la Colombe en me disant « Tu devrais aller trouver Michel Valette et lui chanter ça, et puis tu verras bien. » Et moi, j'ai hésité pendant un an à peu près.
En continuant d'écrire de nouvelles chansons,
oui,
pendant ce temps-là.
Oui, un petit peu, oui, c'est ça. J'ai hésité. Puis je...
Et vous continuez les études, toujours ?
Oui, oui, les études de lettres, ouais. Et puis un jour, je me suis décidé quand même à aller voir Michel Valette. Puis l'après-midi, Valette m'a reçu, m'a fait chanter mes chansons. Mais au bout de trois, je me disais, je vais partir parce qu'il va me jeter dehors. Puis non, il m'a demandé de lui chanter tout ce que j'avais. Et puis il m'a dit, vous commencez la semaine prochaine.
Le temps de vous écrire sur le programme,
oui.
Sur la nouvelle affiche.
Il n'y avait pas d'affiche. Il n'y avait pas d'affiche à la Colombe. Les gens venaient voir des chanteurs, ils ne savaient pas qui. Ça, c'était un des principes de la Colombe. Mais la première fois que je suis allée donc, pour y chanter devant un public, mon père m'a accompagnée parce qu'il voulait voir ce que c'était que cette boîte, hein, bon, si c'était convenable. Ensuite, il est revenu très souvent, mais pour le plaisir, comme ça, pour voir. Et puis, ma guitare était tellement nulle, elle se désaccordait tellement que c'était Guy Béard qui m'a prêté la sienne ce soir-là, le premier soir.
Racontez-moi la Colombe.
Ah, la Colombe. Mais c'était un petit restaurant charmant sur l'île de la Cité. C'était même pas rive gauche, c'était à l'ombre de Notre-Dame, la petite rue de la Colombe. Il y avait un étage, c'est-à-dire qu'il y avait le rez-de-chaussée et un étage, et au rez-de-chaussée ne passaient que des chanteurs à guitare, parce qu'ils n'avaient pas de scène. On chantait assis sur un tabouret, devant une espèce d'arche, comme ça. Enfin, comme ça, une arche. Puis on avait des gens à gauche et des gens à droite, et on chantait là. Et à l'étage, là, il y avait une petite estrade et un piano, donc il pouvait passer des gens qui ne s'accompagnaient pas à la guitare. Et c'était... C'était très bien. Le public était très intéressant. Il pouvait y avoir vraiment des gens qui étaient curieux de venir voir, éventuellement découvrir de nouvelles personnes. Et...
Alors c'est curieux parce que donc dans le Paris, on est vers 1959, hein, si je...
C'était fin 57, ça a fait 45 50... ans il y a quelques jours.
Voilà,
il y a deux jours, je pense. Ça fait 45 ans que j'ai commencé.
Donc, c'est un peu la dernière vague de Saint-Germain-des-Prés.
Ce n'est plus Saint-Germain-des-Prés, c'est autre chose. Saint-Germain-des-Prés, c'était avant, c'était Gréco, les frères Jacques, etc.
Nicole Louvier.
Oui. Non, nous, c'était... alors, qui est-ce qu'il y avait ? Il y avait des gens superbes. Il y avait Guy Béard, à qui j'ai dû aussi ma rencontre avec Jacques Canetti. Mais ça, on peut parler de Jacques Canetti un peu plus tard. Il y avait Hélène Martin... que j'admirais éperdument et que j'admire toujours beaucoup, beaucoup, qui était un des piliers aussi. Bon, puis alors, Pierre Perret a fait ses débuts le même jour que moi à la Colombe. Il y avait Jean Ferrat aussi, mais il y avait aussi des gens comme Paul Barreau qui faisait de magnifiques chansons. Il y avait une fanfare dans ma vie d'enfant. Il y a une histoire, malheur d'à présent. Enfin, c'était super. Bon, il y a la Colombe, je suis passé à un de mes autres cabarets. Les plus importants, c'était le Cheval d'Or, par exemple.
Je suis passé au Cheval d'Or,
je suis passé aussi à la Contrescarpe, je suis passé chez Moineau et au Port du Salut. Bon, mais on était les mêmes. On était toute une équipe de gens qui se croisaient. On allait de là, parce qu'il fallait faire à peu près trois cabarets par soir si on voulait avoir de quoi manger. Hein, un seul, ça suffisait pas. Mais c'était un âge d'or. C'était, un âge d'or où on pouvait écouter plein de chanteurs un peu partout. Un âge d'or pour le public. Mais
public fortuné.
Oui, le public, oui, qui pouvait aller. Oh, la Comtesse Carpe et le Cheval d'Or, c'était pas tellement cher. La Colombe,
chez
c'était
Moineau,
un restaurant.
C'était pas ruineux, vraiment.
Non plus. La Colombe, c'était un restaurant, le Port du Salut aussi. Mais la Comtesse Carpe, le Cheval, bon, c'était, je pense, pas très cher. Mais pour les chanteurs, c'était pas forcément facile. Et moi, je me souviens que. J'étais enceinte de ma fille c'était l'hiver. Alors je me souviens encore comment j'étais habillée, mon Dieu. J'avais une jupe noire, j'ai mis des petites ficelles sur les côtés, puis j'avais une espèce de grande chemise à carreaux. C'était ma tenue de scène, c'était quelque chose. Puis comme il faisait froid, alors j'avais un ciré, ce qui fait que je mettais trois épaisseurs de pull, et puis le ciré. Et quand j'arrivais à la contrescarpe, ben il fallait s'éplucher quoi avant d'aller chanter. Donc je m'étais dans un coin parce qu'il n'y avait pas de loge, bien sûr, il n'y avait pas de coulisses, rien. Alors j'enlevais le ciré, j'enlevais un pull, deux pulls, trois pulls. Les chaussures, elles souffraient quand même pas mal. Et c'est drôle parce que longtemps après, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit : « Je me souviens de vous avoir vu à la contrescarpe quand vous enleviez tous vos pulls. » C'était comme ça, quoi. Puis après, j'allais, comme j'habitais en banlieue, j'allais aux autobus. C'était un bistrot qui se trouvait au Châtelet. J'allais aux autobus, attendre jusqu'à 4h du matin le train à Saint-Michel qui m'emmènerait dans ma banlieue.
C'est dans ce milieu de la chanson, des cabarets, que vous rencontrez votre mari?
Oui, les deux d'ailleurs. Le premier avec qui je ne suis pas restée longtemps, qui était pianiste à la Colombe, Marcel Lyonnais, et l'autre, Henri Drou, je l'ai rencontré au Cheval d'Or. Il était l'accompagnateur de Rissé Barrié. Il était aussi musicien de jazz, et puis ensuite il m'a accompagné pendant 25 ans.
C'est dire que c'est plus qu'une famille vous êtes trouvée là.
Oui, c'était... C'était toute ma vie était faite, se passait là-dedans. Ouais. Ensuite, après avoir fait mes armes au cabaret pendant un moment, c'est Guy Béard qui m'a présenté à Jacques Canetti. Mm-hmm. Et Jacques Canetti, donc directeur artistique de chez Philips. Et bon, on a.
Comment on en a parlé avec beaucoup. Canetti?
Eh bien, je lui dois beaucoup, parce que M. Canetti m'a fait confiance. Il m'a laissé faire ce que je voulais. Il m'a laissé écrire et chanter les chansons que je voulais. Il n'a pas essayé de m'infléchir ou de me canaliser. Et j'ai appris longtemps après que même il m'a maintenu chez Philips alors qu'on voulait me foutre dehors au bout de mon deuxième 45 tours. Il a dit non, elle reste. C'est vrai qu'il payait mal les artistes, ce qu'il faisait tourner, mais il les vendait cher. Donc évidemment, il se faisait un bénéfice entre le cachet qu'il versait et ce qu'il vendait, sauf que il ne nous bradait pas, il nous vendait cher, ça veut dire que pour notre standing, c'était bon. Non, mais bon, ce qui est très drôle, c'est que la première fois que je suis allée auditionner devant Jacques Canetti, c'était au Trois Baudets, mais c'était avant que je passe à la Colombe. J'étais allé juste comme ça passer une audition. Et il m'avait dit, vos chansons sont bien, vous êtes un auteur, mais vous ne serez jamais une interprète. Et je lui ai répondu, c'est ce qu'on va voir. Et ensuite, je le lui ai rappelé, il m'a dit, bon, vous aviez raison.
Moi, je suis pas comme les autres, ce sont eux qui me l'ont dit. Mais ça n'est pas de ma faute, ils ont dit cela aussi. Quand j'ai mal ou de la peine, au lieu de m'en consoler, je vais voir couler la Seine et je m'amuse à pleurer. Un caillou bien rond qui coule, l'instant d'après il est coulé. Coule Seine, coule, roule, je voudrais tant me noyer.
La première chanson que vous enregistrez dit « Moi, je ne suis pas comme les autres ». Et c'est une chanson où, à la fin, on comprend que le personnage se jette à l'eau. Enfin, il y a de grandes chances que le...
Ou pas.
Ou hésite.
Oui, oui.
C'est assez drôle.
Oui. Bah, c'était déjà l'eau. Hein. Déjà l'eau. Je suis très, très influencée par l'eau. Oui, puis il y avait porteuse d'eau là-dessus aussi. Bon, la terre colle à mes sabots. Bon, voilà. Les sabots. Bon, moi, je pense que si j'ai subi une influence, ou si, enfin subi, ou si j'ai à démêler une influence, c'était celle de la chanson traditionnelle. Mm-hmm. Parce que j'ai beaucoup fréquenté la chanson traditionnelle. J'ai beaucoup chanté.
Vous ouvriez des recueils, vous ?
Oui, j'ai fait chanter les chorales. Bon, j'ai fait du scoutisme. Hein, on va pas le. Voilà, ça c'était.
Pas de honte à ça.
Non, non, mais enfin bon, c'était. Parce que.
Vous aviez. La... Allez, quel était votre nom ?
Ah non, 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 je ne le dis pas.
Ah si, on
va
écouter.
Ah non, 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 je ne le dis pas. Oh, non. Jamais, jamais. Non, non.
C'est vrai ?
Jamais.
À ce point-là ?
À ce point. Non. Mais
on imagine le pire du coup.
Non, c'était très joli, un joli petit animal. Mais bon, j'ai donc fait du scoutisme, mais j'ai fait chanter beaucoup, beaucoup. Et j'ai fait chanter en chœur, j'ai chanté, j'ai fait des chorales, etc. Donc je suis, oui, c'est vrai que j'arrivais de là. Et donc la construction couplet-refrain n'avait pas de secret pour moi, et je continue à penser que c'est une bonne structure, que c'est ça la chanson, en fait. Ça a duré quand même assez longtemps, les chansons, ça s'est chanté pendant des siècles. Mais comment dire? Parce que, bon, voilà, vous allez me remettre sur le tapis les sabots et les bergerades et les choses comme ça.
Ça sera plus compliqué. Moi, je parlerai du style troubadour, un petit peu, d'une résurgence du style troubadour de 1830, enfin que les romantiques avaient un petit peu mis en marche. Et puis, surtout, cette impression que... Le monde, l'enfance que vous avez eue a été telle que vous êtes créé un espèce de petit monde irréel de bergerie, de toile de Jouy, et avec même une espèce de recherche d'archaïsme dans l'écriture, voyez, ne saurait m'en défaire, n'aurions point, toutes ces choses-là, que maintenant, dont vous êtes débarrassé très vite, hein, il faut le dire. Et je crois, très vite, les critiques vous disent, bon, tout ça c'est très bien, mais regardez un petit peu autour de vous, vos histoires de sabots, on en a assez.
Ouais. C'est pas ça. Je m'inscris en faux.
Vous avez le droit de répondre.
Parce que j'ai eu l'occasion d'y penser, mais c'est maintenant là que je vois. En fait, c'est une imagerie. Mais c'était pas parce que je me créais un monde à moi, un petit monde de bergerette. C'est d'abord parce que, comme vous le disiez tout à l'heure de Nicole Louvier, j'étais très jeune. J'étais innocente tout en ayant quand même une maturité d'écriture, puisque j'ai écrit Porteuse d'eau et que maintenant je vois cette chanson-là et je ne changerai pas un mot ni une virgule. Je pense que c'était plutôt un écran.
La terre colle à mes sabots, ne saurais m'en défaire. Le ciel me pèse sur le dos, j'ai pleuré les rivières, j'ai sangloté tant de ruisseaux, mes doigts sont rivés à mon seau.
C'était un écran, c'était une façon de rendre acceptable d'être une fille, d'avoir 20 ans, de faire des chansons, où je disais des choses assez non conventionnelles. Mais je ne pouvais pas les écrire. Je pense que je n'osais pas, j'étais timide aussi, j'étais réservée, et je ne pouvais pas. Il y a certaines choses qui sont derrière ces écrans-là, que personne n'a jamais vu, ou alors qu'on m'a pas vraiment signalé. Les sabots, les bergerettes, etc. C'était le décor.
Enfin, c'était on va juste le retrouver chez Brassens, hein, quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat. Il y a ce même petit monde villageois. Oui. C'est un peu le monde du tati de jour de fête.
Mais oui, mais pourquoi
Non, mais c'est la France entre la 4e et la 5e République qui commence à avoir la nostalgie d'un monde rural qui est en train de disparaître.
Oui, mais moi, je pense que c'était vraiment un écran. C'était une façon, un déguisement. C'est une façon de dire des choses sans avoir l'air impertinente. Parce que j'étais très jeune.
Sans qu'on vous tape sur les doigts. Vous avez toujours peur de vous faire taper sur les doigts.
Oui, mais oui. Madame
ma voisine. C'est très curieux chez vous, parce qu'il y a toujours un mélange de grand courage. Et en même temps, on sent que vous avez toujours peur qu'on vous tape sur les doigts.
Oui, bien sûr.
Vous avez les deux en même temps.
Moi, je pense... oui, c'est vrai. Mais si j'essaye d'analyser ça maintenant, la chanson de toute seule, là, moi, je ne suis pas comme les autres, ça dit plein de choses en filigrane. Une chanson comme Madame, ma voisine, qui est aussi sur un rythme un petit peu désuet peut-être, c'est quand même l'histoire d'une femme qui fait l'entremetteuse. Bon, ben ça,
c'est très impertinent, effectivement.
C'est impertinent.
Alors, vous êtes aussi dans le libertinage.
Oui, Lazare et Cécile, bien que ça se passe avec des peupliers et la lune, Lazare et Cécile, c'est une histoire terrible et puis une histoire d'espoir, c'est-à-dire...
Voilà. C'est aussi, c'est une histoire, c'est un peu le monde de certaines chansons traditionnelles, sauf qu'à la fin de la chanson traditionnelle, le garçon se pend et la fille se jette dans le puits. Et là...
Oui. Non, ben voilà, ça, il décide qu'il parte.
Ils partent dans l'amour, ils partent dans la vie. Il y a un petit retour.
Oui, une chanson qui s'appelait La quarantaine, depuis que les garces du pays m'ont mise en quarantaine. Je veux dire, c'est l'histoire d'une franche luronne qui en fait voir beaucoup. Mais bon, je pense que c'était vraiment... C'était le décor.
Vous aviez peur que si vous le chantiez dans le décor de tous les jours, ça devienne graveleux.
Ça ne passerait pas.
Serait devenu graveleux.
Oui, il me semble. Enfin, je le sentais, en tout cas. Oui. C'est comme ça que je le vois. Je m'en fichais, moi, des sabots et de la campagne.
Mon mari est parti un beau matin d'automne. Parti, je ne sais où. Je me rappelle bien, la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon.
Alors, il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'il y a des fois la réalité vous rattrape. Et vous écrivez justement, ça montre bien ce côté filtre, mon mari est parti, sans vous rendre compte que vous avez fait une des grandes chansons contre la guerre d'Algérie.
Voilà, ouais. Enfin, contre la guerre en général.
Mais sauf que, oui, vous voyez, faire des chansons contre la guerre, c'est une chose, mais faire des chansons contre la guerre, contre le pays, et être en guerre et mettre une guerre coloniale, c'est autre chose.
Ben oui.
Mais quand est-ce que vous êtes rendu compte que cette chanson était une chanson qui pouvait se tourner contre la guerre d'Algérie?
Des années après. Quand j'ai rencontré des jeunes gens qui m'ont dit, mais on vous écoutait, on n'écoutait que ça quand on était. Moi, je ne savais pas.
Et même au cabaret, on ne vous l'a pas dit?
Non.
Alors, je suis allée vérifier, il n'y a pas eu de pastille interdit d'écoute sur les fiches d'écoute fichiers de l'ORTF. Là-haut, je ne l'ai pas trouvé.
Moi, j'ai un disque, je vous le montrerai. J'ai un 45 tours sur lequel il est marqué « à éviter ». Pas interdit d'écoute, ça aurait été trop beau. J'aurais bien voulu qu'on me censure. Non, mais « à éviter ». Et c'était le premier, c'était « porteuse d'eau ». Ça n'avait rien de, quand même, très subversif.
Et ça sort. On est encore en guerre quand le disque.
Mais c'est celui-là. Alors, c'est celui avec les nénuphars dessus. Oui. Mon mari est parti. C'est ce 25 cm avec la si belle pochette de nénuphars qui a fait une telle carrière. Et la raison pour laquelle il y avait des nénuphars sur cette pochette, c'est que j'étais enceinte jusqu'aux oreilles et infotographiable. J'avais des taches sur la figure, c'était terrible. Et donc, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis finalement, ils ont trouvé ça, et c'était magnifique, cette pochette de nénuphar.
Vous avez fait un disque et une fille.
Oui, oui. Mais c'était... Mais ce que j'ai trouvé par la suite, le plus injuste, ça me rendait folle, c'est que on me reprochait, pendant des années, on m'a reproché, c'est ça, c'est la campagne, machin, non. Mais quand le folk song est venu à la mode, alors là, j'en faisais pas partie.
Parce que ce n'étaient pas des vraies chansons traditionnelles que vous chantez, mais...
Oh bon, mais ça fait rien, c'est pas... Mais oui, c'est vrai que... Et alors, oui, vous, Troubadour, alors c'est autre chose. Parce que j'étais très, très férue du Moyen-Âge. J'aimais beaucoup ça, avant de me mettre à écrire. Bon, puis j'ai latin et ancien français, etc. Bon, j'avais beaucoup d'images du Moyen-Âge. Parce que c'est vrai que mes chansons, c'est pas... Je l'ai fait avec des images, beaucoup. C'est...
Enfin, le Moyen-Âge se portait bien à l'époque. Oui. Nicole Leger aussi donne et un alors... petit peu dans ce style pourpoint. Et...
Oui, alors comme ça m'énervait quand même. Ça m'énervait. Je me suis dit, je ne vais pas mettre du Moyen-Âge dans toutes mes chansons. Alors je vais mettre tout mon Moyen-Âge dans une chanson et ça a été Les Cathédrales. Voilà.
Oui, les troubadours d'ailleurs.
Oui, mais donc, après ça y était, j'en ai reparlé encore dans une autre qui s'appelle Le Château de mes ancêtres, mais ça c'est parce que en effet, mes ancêtres bourguignons avaient été serfs autour d'un certain château, le château d'Enguerrand de Marigny, et que ce château a été dévasté, les arbres coupés, etc. Enfin bon. Donc, mon grand-père nous emmenait toujours voir ce château quand on était petit, en disant, tu vois, tes ancêtres ont défriché, ont labouré. Oui, parce que moi, j'étais pas princesse. Hein, j'aurais pas été princesse. J'étais, c'est ça, j'aurais porté les seaux d'eau. Et puis, je me serais sans doute fait culbuter derrière un buisson par le châtelain, etc. Oui. Donc, ça n'aurait pas été non plus une vie terrible. J'aurais préféré être trouvert, quoi, me promener... Mais à l'époque, il aurait fallu que je sois un garçon.
Donc, non, il y a eu des femmes.
Non, il y a eu des pas beaucoup qui se promenaient sur les routes. Mais je suis sûr que j'ai été troubadour dans une autre existence.
Le château de mes ancêtres était près de leur maison. Tu sais, je vécus peut-être en leur temps, Jeanne ou Marion. Regarder les moutons. Le château de mes ancêtres couronnait une hauteur. Un baron en était maître. Eux étaient avec ferveur vignerons et laboureurs. Le rouet de mes aïeuls ignorait encore le lin. Tandis que dans les étals, leurs gamines couraient seules, glaner quelques menus brins. Mes aïeules souveraines tenaient bien raide leur dos, s'en allant à la fontaine dans leurs jupons de futaine, avant moi porteuse d'eau.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre en 2002 entre Hélène Azéra et Anne Sylvestre, récemment disparue. À voix nue, réalisation Marie-France Thivault, Vincent Deck, prise de son Alexandre Dang, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, serait écouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Ce n'est plus une maison. Ainsi les souvenirs meurent. Il faut avant que j'en pleure terminer cette chose.